Solo esta vez. Oh,
oh, oh, oh, eh. CIUT 89.5 FM, the station that brings you the best Latin music, new and old, on Ultra Latino with DJ Chelly.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
The views and opinions expressed on the following program are those of the producers and or the persons appearing on the program, and do not necessarily reflect the views and opinions of CIUT FM.
CIUT 89.5, Toronto.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.FM or live from our studio. Populi Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands. And features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Popori Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. In partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie. Mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre pour faire changer les choses.
Nos efforts collectifs contribuent à arrêter la propagation de la COVID-19. À mesure que les commerces rouvrent, respectez l'écart sanitaire et portez un couvre-visage quand c'est difficile de respecter l'écart. Pour en savoir plus, consultez ontario.ca/nouveau coronavirus.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Popourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans sur CUT 89,5 FM. Popourri Show, sur votre fréquence, tout au long de l'année. La radio, comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette with butter or marmalade?
Du 10 au 18 avril 2021, le festival Ciné Franco Jeunesse et Famille est votre destination pendant les vacances scolaires. Parmi nos coups de cœur, Mika, un film d'Ismaël Ferouki, sorti en 2020, un film français, un drame surprenant, une coproduction Maroc-France, sous-titré en anglais. Un film qui était en compétition au Festival du film d'Angoulême en 2020. 8 ans après Les Hommes Libres, l'écrivain et réalisateur français d'origine marocaine, Ismaël Ferrouki, retourne à ses racines avec Mika, un enfant issu d'un bidonville et qui se trouve propulsé comme homme à tout faire dans un club de tennis de Casablanca, un monde qu'il ne soupçonnait pas mené d'une main ferme par le propriétaire Slimani. Un film débordant d'humanité tourné à Casablanca. Le réalisateur Ismaël Ferrouki écrit, et je cite, « Touché par la violence des inégalités sociales dans le pays, je me suis intéressé au destin de cette jeunesse qui sombre dans la déchéance et le désespoir et qui a comme pour seul rêve la fuite vers l'Europe. » Le film est porté par le jeune Zakaria Inan, qui n'est pas un acteur professionnel et qui signe avec Mika sa première expérience au cinéma sublimée par le jeu de Sabrina, Wazani et Mohamed Az El Arab. Mika, un film qui vous invite à découvrir l'autre côté de la médaille du Maroc. Dans le cadre de Ciné Franco Jeunesse et Famille, c'est votre destination pendant les vacances scolaires. Il faut des histoires de ce genre pour redonner de l'espoir à des générations de jeunes qui ne pensent qu'à migrer vers le sombre Eldorado, car ils ont l'impression que toutes les portes se ferment devant eux dans leur pays. Le cinéma est un outil d'inspiration incroyablement accessible de nos jours. Mika de Ismaël Ferrouki, sorti en 2020, une coproduction Maroc-France en français, sous-titrée en anglais sur cinefranco.com. Et oui, comment oublier ce fulgurant, cet immense succès? Où sont les femmes? Et oui, Patrick Juvet, éternel minier de la Riviera vaudoise, s'est éteint 70 ans le 1er avril dernier. Hommage à un improbable et flamboyant parrain de la communauté LGBTQ+, de Suisse romande. L'icône gay, celui qui se disait bisexuel avec des involtures des années 70, en pleine vague rock, disco, n'est plus. Patrick Sébastien, l'ex-présentateur du plus grand cabaret du monde sur France 2 et TV5 Monde, lui rend un vibrant hommage dans la deuxième heure de notre émission. Patrick Juvet, c'est le fil conducteur de l'émission d'aujourd'hui. Dimanche 11 avril 2021, 15e émission de l'année. Bon dimanche et bienvenue à Popourri Show, toujours en mode virtuel. L'ingénieur du son DJ Devera, production et animation Eric Adair jusqu'à 13h. Et oui, nos heures régulières sur www.cut.fm pour télécharger ou réécouter nos émissions tout au long de l'année où que vous soyez. Oui, c'est tout simple, comme bonjour, popourrishow.com. Et un grand merci à tous ceux et celles qui participent à nos émissions, et particulièrement aujourd'hui, Ciné Franco, Le Créfo, la Fondation Sylvanie Lindor, 10 ans déjà, bravo, merci d'être là. Et aussi un grand merci à tous nos collaborateurs, collaboratrices et médias partenaires qui contribuent chaque semaine à la réalisation de nos émissions. Et cette émission est réalisée aujourd'hui en partenariat avec la maison d'édition Prise de Parole.ca qui nous présente A Half Breed, métisse en français si vous préférez, de Maria Campbell, un grand classique incontournable de la littérature métisse de la Saskatchewan, et oui, au Canada, enfin traduit en français. Et aujourd'hui, nous avons le bonheur, le grand plaisir de recevoir un des traducteurs de cet ouvrage, Charles Bender. Il est comédien, metteur en scène, présentateur de la très remarquable émission de Radio-Canada, 8e feu, une série documentaire abordant une variété de questions contemporaines touchant les Premières Nations. Et Ciné Franco Jeunesse n'a pas dit son dernier mot, non, 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 le festival Ciné Franco Jeunesse et Famille est votre destination pendant les vacances scolaires, un florilège de films pendant la semaine de relâche, du 10 au 18 avril, d'ailleurs nous aurons des spots publicitaires tout au long de cette émission. Plus de détails sur cinéfranco.com, Marceline, fondatrice de Ciné Franco, sera des nôtres dans la deuxième heure à ne pas manquer. Et le mot de la semaine, délestage, selon Linda Giguère, notre amie journaliste collaboratrice à TV5 Monde. Les Français de la deuxième circonscription du Canada sont appelés à voter pour leurs conseillers des Français de l'étranger le 29 mai prochain. 4 conseillers des Français de l'étranger seront élus. 7 listes ont été déposées pour ces élections consulaires à Toronto. Mais qui sont les candidats en lice en cette période compliquée, difficile? CUTFM ouvre l'antenne exceptionnellement. Et donne la parole aux candidats. Aujourd'hui, nous recevrons Yann Leborn, conseiller en affaires publiques à Ottawa. Il est candidat tête de liste en marche pour les Français de l'Ontario et du Manitoba vers 12h35. Vous trouverez tous les liens concernant Yann Leborn et sur notre site popourichaud.com. Et merci du fond du cœur pour vos messages, vos commentaires très inspirants sur nos émissions spéciales lors du mois de la francophonie au mois de mars. En un mot, la majorité de nos auditeurs veulent à tout prix des émissions mettant en vedette les visages de la francophonie canadienne et internationale, ainsi que les expressions francophones dans les États membres de la francophonie. C'est promis. Pour nous joindre, popourichaud.com. Comme ou encore popourri@cut.fm. Mais pour tout de suite, les buzz de la semaine. La crise à l'université Laurentienne s'amplifie. Nous avons appris avec stupéfaction que l'université mettra fin à sa fédération le 30 avril prochain. Une décision qui mettra en péril la poursuite des études de 200 étudiants inscrits à l'université de Sudbury après le 30 avril. Et selon une missive de l'Association des professeurs de l'Université de Toronto, U of T, on peut lire « Nous sommes déçus que le récent budget provincial 2021 du gouvernement de l'Ontario n'ait pas inclus de soutien financier ciblé pour l'université laurentienne, ajoutant une plus grande incertitude pour les collègues, le personnel et les étudiants de la Laurentienne. Selon une très bonne source, plusieurs professeurs francophones ne font plus confiance à la direction de l'université laurentienne et plusieurs s'attendent au pire. Pour plus d'infos, suivez le lien disponible sur notre site popourichaud.com. Après les controverses à l'Université d'Ottawa, c'est au tour de l'Université du Québec à Montréal de se trouver dans l'eau chaude. L'Université du Québec à Montréal poursuit une étudiante et influenceuse pour 125 000 $. L'établissement reproche à la jeune étudiante que la photo d'elle partiellement dénudée avec le logo de l'université nuise à la réputation de l'établissement. Une vague de solidarité sur les réseaux sociaux, femmes, hommes, pauvres, rose, légèrement vêtue, avec le mot-clic hashtag PapoQuam. L'avocat qui représente l'étudiante en question affirme que les deux parties sont en discussion pour trouver un terrain d'entente hors cours. Covid-19 en Ontario, Ottawa, Toronto et Peel demandent un reconfinement total. L'Ontario rapporte plus de 6000 nouveaux cas. Les enseignants partagés entre envie de renouer le contact et peur de Covid-19. En Haïti, 10 personnalités se sont réunies et ont pris l'initiative d'écrire aux autorités haïtiennes pour réclamer l'inscription du rythme compas comme patrimoine immatériel mondial à l'UNESCO. Une occasion de briller à l'international. Aujourd'hui, près de 190 pays, dont Haïti, ont signé la Convention du patrimoine culturel immatériel mondial de l'UNESCO. Île Maurice, parlementaire suspendu, l'opposition en mode contre-attaque. La pandémie continue d'affecter l'économie de cette île. Plus de 500 cas Covid-19 recensés depuis le 5 mars 2021. En Guadeloupe, un hymne à la joie pour les enfants autistes et leurs familles. Une belle chanson intitulée « Piti en nous yéo », un clip sorti le 2 avril lors de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Je rappelle que les familles d'enfants autistes au Canada en situation critique, les familles doivent souvent attendre pendant des années avant de pouvoir accéder à des services spécialisés couverts par le régime public. L'aide gouvernementale en matière d'autisme varie grandement d'une province à l'autre. En Martinique, la hausse du nombre de patients hospitalisés en réanimation Covid fait redouter le pire aux équipes médicales et paramédicales. En France, Covid-19, la pression hospitalière continue de s'aggraver. Puis il y a une enquête exclusive du Figaro, les Français touchés dans leur santé mentale. Au Maroc, la dessinatrice Zainab Fassiki défend les femmes victimes de viols. Très bel article. En Tunisie, le film « L'homme qui a vendu sa peau », une fable politique sur le chemin des Oscars. Et Sénégal, le tourisme au creux de la vague. Du journal Jeune Afrique, exclusif, les 50 personnalités qui font l'Afrique numérique en 2021. Aujourd'hui, le continent compte plus de 500 millions d'utilisateurs de téléphones mobiles. Presque un Africain sur deux. Et avant de passer à la chronique de Linda Giguère, TV5 Monde, petit détour sur les sujets d'actualité vus et traités par nos collègues journalistes des médias francophones publics et du magazine L'Accent des Autres à RFI. Mesdames, Messieurs, voici Olivier Nederland de RTBF, entouré d'une équipe de chroniqueurs issus des médias francophones publics.
Voici votre rendez-vous avec l'actualité des médias francophones publics. Comme chaque semaine, voici l'accent des autres avec la radio-télévision suisse, RFI, Radio-Canada, la RTBF et France Inter. La France qui généralise les mesures de restriction réservées jusqu'ici à quelques départements. Éric Delvaux.
Oui, à partir de ce samedi soir, plus question de se déplacer à plus de 10 km autour de chez soi sans attestation. Les voyages interrégionaux seront interdits sans motif impérieux. Autant de mesures qui désespèrent les professionnels du tourisme.
Et à propos de tourisme, le gouvernement belge décide de limiter le nombre de places disponibles dans certains trains, ceux qui vont vers la côte. Jacques Kremers, c'est une mesure anti-Covid qui a fait polémique cette semaine.
Les voyageurs en partance pour la côte ne peuvent désormais plus s'asseoir que du côté fenêtre, une mesure critiquée jusqu'au sommet de la Société belge des chemins de fer.
Et puis ce nouveau tour de vis aussi au Canada, Sébastien Desrosiers, face à une troisième vague de la pandémie, plusieurs régions canadiennes ordonnent un nouveau confinement.
La province la plus peuplée, l'Ontario, compte plus de patients aux soins intensifs qu'à n'importe quel moment depuis le début de la pandémie. Les variants du virus se propagent entre autres à Toronto, mais aussi à Québec et à Vancouver.
Nous serons aussi au Mali cette semaine avec vous, Nicolas Sûr, et ses accusations de bavure contre l'armée française.
Oui, la polémique dure depuis le mois de janvier, mais cette fois-ci, c'est l'ONU qui publie le résultat de son enquête. Selon son rapport, la frappe menée par l'opération Barkhane contre le village de Bounti a bien coûté la vie à 19 civils. À Paris, l'armée campe sur ses positions et affirme avoir tué des djihadistes.
Enfin, en Suisse, la commune bernoise de Moutier a décidé de rejoindre le canton du Jura. C'est l'épilogue, Pierre Enchauffa, d'un long combat pour l'indépendance.
Oui, un scrutin local sous haute surveillance de la Confédération qui clôt la question jurassienne dont l'origine remonte au Congrès de Vienne.
Voilà donc pour le sommaire de cette semaine.
RFI. Toute la diversité du monde.
C'est chaud, non ?
Bonsoir, Linda.
Ah, bonsoir, ma messe.
Ah, vous tombez la veste.
Oui, si vous le permettez, je... Ouais. Je me déleste un peu. Ouais. Vous savez comment c'est quand on part tôt le matin pour la journée ? Moi, je ne suis pas capable de voyager léger, d'où mes délestages, répétés.
Délestage.
Délestage, c'est un beau mot, ça, délestage. Moi, la première fois que je l'ai entendu, c'était concernant l'Afrique. Un délestage en Afrique, c'est une coupure d'eau ou d'électricité. Oui. Quand la demande est trop forte, on coupe pour éviter la panne. On entend souvent parler de ça à cause des manifestations de colère. Les délestages sont une plaie pour les Africains. J'ai donc été surprise, très surprise, Mohamed, quand j'ai appris que les Canadiens aussi souffraient de délestage. Ah. Mais pas les mêmes qu'en Afrique. Au Canada, le mot délestage fait désormais partie du lexique de la pandémie de COVID-19. Le délestage a été mis en place il y a un an au Canada pour décharger les hôpitaux. On a déprogrammé des opérations du cœur, des greffes de reins pour faire de la place aux malades du coronavirus, comme partout. Pas assez de lits, pas assez de moyens, pas assez de personnel. On a dû faire des choix, des patients sont décédés, d'autres ont perdu l'espoir. Le délestage est une stratégie controversée. Mais ce qui est curieux, c'est qu'avant la pandémie, le mot délestage n'avait rien à voir avec tout ça. Nos dictionnaires le définissent comme l'action de délester, de décharger de son lest, de son poids. On déleste un navire, on déleste le carburant d'un avion, on déleste une route en travaux en détournant le trafic. Vous savez d'où vient l'expression « jeter du lest » ?
Oui, de
la Montgolfière. Les aéronautes jetaient des sacs de sable par-dessus la nacelle pour que le ballon s'élève. Jeter ou lâcher du lest, c'est mettre de l'eau dans son vin, c'est faire des concessions. Au figuré, délester quelqu'un, c'est aussi le déposséder, moi tout à l'heure, de mon manteau, mais aussi voler quelqu'un. Il s'est fait délester de son portefeuille. Et c'est pas tout, Mohamed.
Soutenu.
Au Québec, le délestage fait partie du langage des affaires maintenant. Les Québécois ont inventé le délestage d'entreprises, le délestage d'actifs et des programmes de délestage pour se débarrasser des sites de production quand ça va mal. Ils ont même créé le délestage politique. Lors des négociations sur... sur l'accord avorté du lac Meech. Lors des négociations sur l'accord du lac Meech en 87, accord qui a avorté, des Québécois ont soupçonné le Canada anglais de vouloir le délestage du Québec en dehors de la Fédération canadienne. C'est pas étonnant qu'avec une telle vitalité, le mot délestage au Canada ait investi le milieu hospitalier. Il l'avait fait d'ailleurs avec l'épidémie de grippe H1N1 en 2009. La suite, vous la connaissez maintenant. Moi, je suis curieuse de voir si l'emploi de délestage dans le vocabulaire de la pandémie va se répandre dans les pays francophones. Mais très franchement, je préférerais plutôt qu'il nous déleste de sa présence. Un grand merci pour terminer à la linguiste québécoise Myriam Maguire qui m'a fourni plein d'infos sur ce sujet.
Merci beaucoup, Linda. C'est fascinant l'essence de ce mot, délestage.
Avec la nouvelle application Apprendre le français avec TV5 Monde, apprenez le français où vous voulez, quand vous voulez. 3000 exercices variés et amusants à partir de vidéos directement issues de nos programmes pour améliorer votre compréhension orale du français. Débutant ou confirmé, on vous guide pas à pas avec des tas d'astuces et de conseils. Avec l'appli Apprendre le français avec TV5 Monde, le français, c'est simple comme bonjour. Disponible gratuitement sur iOS et Android.
Aujourd'hui, tout a changé. Aujourd'hui la chose va évoluer. J'aime pas prier car il y a toujours pour les autres. Nous on a nos limites, rien ne peut nous effrayer. Si vous trouve Africa quand j'ai rejoint le réseau.
Il y a mouvement, il y a mouvement. Il y a mouvement.
Oh, rejoins la performance. Aïe, rejoins aussi le partage. Toi qui aimes communiquer, toi qui aimes te connecter, viens profiter, il y a tout ça chez Mouvo. Arrête de chercher là, des calculs.
Africa, un monde nouveau vous appelle.
CIUT 89.5 Toronto.
On a tous de bonnes questions sur le vaccin. Pourquoi faut-il se faire vacciner si on peut vaincre naturellement la COVID-19?
Les personnes vaccinées contre la COVID-19 sont protégées de cette maladie. Elles risquent donc moins d'avoir des symptômes ou de souffrir d'une maladie grave. L'ensemble de la population est susceptible d'attraper la COVID-19 et l'unique moyen de se protéger de cette maladie, c'est la vaccination. C'est la solution retenue aussi par toutes les provinces canadiennes et tous les pays à travers le monde.
Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger.
Moi, je suis qui?
De 2011 à 2021, ça fait déjà 10 ans. 10 ans d'engagement pour l'intégration économique des jeunes Canadiens noirs. 10 ans d'engagement pour le rayonnement de la francophonie ontarienne. 10 ans d'implication dans la communauté pour la promotion d'équité sociale. 10 ans de lutte contre le racisme systémique et ses conséquences. 10 ans d'engagement pour un Canada inclusif avec l'égalité de chance. C'est une décennie de travail et de succès. Nul doute que des plus belles décennies sont encore devant nous. Oui, il faut s'entraider. C'est la loi de la nature. Mais une collaboration avec Sylvanie Lédor Fondation, c'est mieux. Mieux pour réussir. Nous continuons d'avancer avec l'entrepreneuriat pour l'intégration économique. Soccer for Integration. Soccer for Social Cohesion. Le multiculturalisme, c'est notre force. Intéressant, hein? Sylvanie Lédor Fondation, Diversity Our Force. Implantée dans la ville reine du pays, Toronto, la ville la plus diversifiée au monde. Pour plus d'informations, visitez la page Facebook de la Fondation Sylvanie Lédor. Par l'autorisation de la Fondation Sylvanie Lédor, je vous dis merci. Merci à vous d'être à nos côtés. Gouvernement du Canada, Patrimoine canadien, Assemblée de la francophonie de l'Ontario, Express Toronto, CIUT 89.5. Merci pour votre support, M9 Média, Croix-Rouge canadienne. Merci pour votre collaboration. Merci de votre fidélité. Encore et toujours, faisons la route ensemble.
Let's take the world together.
Françaises et Français de l'étranger, les 29 et 30 mai prochains, vous allez avoir un rôle important à jouer. Celui d'élire vos conseillères et vos conseillers des Français de l'étranger, vos élus de proximité. Et oui, c'est important car aller voter, c'est conserver le lien qui vous unit avec la France. Oui, la France, vous savez, la gastronomie, l'inégalable culture du débat, mais aussi le savoir-faire et la modernité. Alors pensez à vous inscrire sur les listes électorales consulaires ou à actualiser vos coordonnées sur le site service-public.fr avant le 23 avril. C'est simple et rapide et cela vous permettra de voter lors des prochaines élections consulaires et d'élire les conseillères et les conseillers des Français de l'étranger. Ce n'est pas parce que l'on n'habite pas en France que l'on n'est pas représenté. Pensez à vous inscrire sur les listes électorales consulaires avant le 23 avril.
Du 10 au 18 avril 2021, le Festival Ciné Franco Jeunesse et Famille est votre destination pendant les vacances scolaires. Parmi le coup de cœur, Place des Victoires de Johan Guyuswick. Une comédie dramatique, un film à français sous-titré en anglais. Bruno, un chômeur dépressif qui rencontre un jeune homme, pickpocket, et tisse avec lui une amitié complice. Tout surprend dans l'affligeant Place à des Victoires. Son tranquille racisme anti-rome, l'absence totale de notion de protection de l'enfance, et son héros, si auto-centré qu'il semble inconscient de son cynisme. Mais qui sont ces Roms, ceux que l'on appelait autrefois les bohémiens? Comment et de quoi vivent-ils aux quatre coins de l'Europe? Place des Victoires, un film cynique et sans relief. Le personnage de ce gamin est espiègle et malicieux. Son interprète, Piti Pua, a une belle présence à l'écran et le film ne manque pas de tendresse et d'une certaine poésie. Place des Victoires, une comédie dramatique, un film français sous-titré en anglais. Du 10 au 18 avril 2021, le Festival Ciné Franco Jeunesse et Famille est votre destination pendant les vacances scolaires sur www.cinefranco.com. Bonne annonce, Magneto, DJ Devera.
Il faut qu'on puisse discuter pour les enfants, pour nous aussi, hein.
Sandrine.
Oh, t'as mon portable?
Tu parles français? Tu vas passer la nuit ici. Demain, je te ramènerai chez toi et tu vas me retrouver mon portable. Comment tu t'appelles?
Gagic.
T'as faim?
Oui, un tépu.
Tu veux faire quoi dans la vie, hein?
Réparer des animaux, je sais pas.
Avant, je faisais travail. J'étais un patron, moi.
Patron?
Ouais, ouais.
Pourquoi t'es plus?
Gagic, qu'est-ce qui t'a foutu? T'es fier de toi?
Tyrion, je vais vous faire expulser, moi!
Laissez-moi jusqu'à la fin de la semaine, ok?
Bien sûr, bien sûr.
70, tu dégages.
Plus. Hé, hey, regarde-moi de les yeux, on va casser ta gueule.
Oh!
Regarde! C'est qui?
C'est Mbappé.
Mbappé?
C'est Mbappé, oui. Faut surtout pas ouvrir le cadre. Tu me promets?
Ok.
On se relève de tout, vous savez.
What do the francophones want? Chaque dimanche, soyez de la fête avec Popourri Show sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Des entretiens musclés, des rendez-vous littéraires, culturels. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Ici Eric Adair. Je vous invite à Popourri Show, le magazine phare sur CUT 89,5 FM, chaque dimanche de 11h à 13h, en partenariat avec le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne de la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto, le département d'études langagières campus de Mississauga, la chaire de recherche du Canada en études des minorités à l'Université de Waterloo, les éditions Prise de parole, Education Consulting Inc., Noir et Psy, Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24. Écoutez, participez, devenez chroniqueur ou bénévole. Joignez-vous à l'équipe de Popourri Show en nous envoyant un message à popourri@cut.fm ou visitez notre site popourrishow.com. Popourri Show, plus de 34 ans déjà sur CUT 89,5. La radio comme je l'aime.
Popourri Show présente Half-Breed de Maria Campbell aux éditions Prise de Parole, une traduction de Charles Bender et Jean-Marc Dalpé. Avec Half-Breed, Maria Campbell expose sans phare et dans une langue directe la pauvreté, l'exclusion, la honte et le racisme hérité du colonialisme et livre un témoignage puissant sur la résilience de son peuple. Maria Campbell est une écrivaine, dramaturge, cinéaste, enseignante, organisatrice communautaire, militante et aînée métisse. Elle est née en 1940 en Saskatchewan. Elle a écrit plusieurs livres et pièces de théâtre et a réalisé et écrit des scénarios de films. Son engagement à l'égard des arts et des artistes autochtones est important. Elle a mentoré de nombreux artistes à travailler dans le théâtre communautaire avec des jeunes et a plaidé pour l'embauche et la reconnaissance des autochtones dans les arts. Elle a aussi fondé des refuges pour femmes et enfants autochtones et dirigé un camp d'écriture sur le site historique national de Batoche, où elle organise chaque été des événements commémoratifs. Half-Breed, un grand classique canadien incontournable, un livre poignant qui ouvre l'esprit sur l'univers et les réalités des femmes métisses du Canada. Half-Breed, disponible sur le site prisedeparole.ca. Et notre invité est Charles Bender, Huron Wendat Wendake, un des traducteurs. Il est comédien, animateur, présentateur de la très remarquable émission de Radio-Canada « Huitième feu », une série documentaire abordant une variété de questions contemporaines touchant les Premières Nations. Il a eu l'occasion de travailler sur plusieurs productions, autant en français qu'en anglais, grand militant pour qu'il y ait une présence autochtone au théâtre. Un personnage à découvrir. Allez, on l'appelle tout de suite.
Oui, allô?
Monsieur Charles Bender, s'il vous plaît.
Oui, c'est moi.
Bonjour, ici Éric Kader de CUT-FM à Toronto. Merci de nous accorder quelques minutes de votre temps. Tout d'abord, toute l'équipe de la radio vous souhaite la bienvenue. C'est la première fois que vous passez à notre émission. En 34 ans, c'est la première fois donc qu'on vous reçoit et on a le grand plaisir de vous accueillir parce que vous êtes un homme tellement riche en activités, en émotions, au niveau de votre expérience, votre expertise. Vous avez un CV très impressionnant et vous savez qu'on vous écoute en Australie, en France, en Afrique, en Allemagne, dans les Antilles. Donc, on aimerait prendre un peu de temps pour vous présenter à nos auditeurs. Et vous êtes membre de l'Union des artistes, acteur, comédien, metteur en scène, animateur, annonceur, traducteur, mannequin, maître de cérémonie. Et depuis 1999, vous avez joué et animé plusieurs émissions, joué dans plusieurs pièces de théâtre. Parlez-moi justement un peu de votre enfance, de cette passion, votre intérêt pour le monde du théâtre.
Ah, mon Dieu! Mais ça vient pas de la jeunesse du tout, en fait. C'est assez drôle parce que je dirais que c'est exactement le contraire. Quand j'étais jeune, j'étais quelqu'un qui était assez réservé. J'étais pas du tout un clown de classe. J'étais pas du tout quelqu'un qui essayait d'attirer l'attention. C'est au secondaire, je dirais, à la fin de mon secondaire, que je me suis inscrit à une activité de théâtre. Moi, je m'intéressais à l'époque. Un choix de carrière que j'avais un petit peu en tête à l'époque, c'était peut-être de devenir technicien en effets spéciaux. Je voulais faire des monstres et des extraterrestres, puis des choses comme ça. Je me suis dit, bon, je vais rentrer dans le cours de théâtre, puis je vais faire un petit peu de technique, en apprendre un peu plus sur les éclairages, sur les consoles, des choses comme ça, parce que ça vient avec le métier aussi. Je me voyais très bien travailler en arrière de la scène, et puis finalement... l'enseignant à cette époque-là m'a dit « Ah, j'ai besoin de toi pour jouer juste un tout petit rôle. Je vais te laisser faire la technique, mais il faut que tu joues juste un tout petit rôle dans la pièce. » Puis c'est une pièce avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnages. Finalement, j'ai pris ce petit rôle-là, puis après ça, j'ai fait « Ah, ben, je vais en prendre un autre, il y en a un autre qui est disponible. » Puis finalement, j'ai fait 8 rôles différents dans cette pièce-là. Et puis, c'est là que la passion est née. J'ai fait « Mon Dieu, c'est donc bien ça, c'est donc bien libérateur d'être sur scène. » Et puis c'est comme ça que ça a commencé. Je suis arrivé au cégep, je me suis inscrit tout de suite aux activités de théâtre. Le metteur en scène à l'époque, c'était Alain Jean, qui est maintenant le directeur du DAAD, le Centre des écrivains et des auteurs dramatiques. Puis c'était vraiment une expérience qui a transformé ma vie. C'était vraiment un metteur en scène puis un pédagogue exceptionnel, Alain Jean. Donc c'était une très, très, très belle expérience, très riche. J'ai fait un petit peu de théâtre amateur en même temps. Mes dernières expériences à faire du théâtre d'été, c'était à cette époque-là. Et après ça, quand je suis arrivé à l'université, j'ai fait, honnêtement, je savais pas à l'époque comment j'allais orienter ma carrière. Puis je me suis dit, mais le théâtre a l'air d'être tellement nourrissant. Pourquoi ne pas plonger et puis d'en faire une formation? Donc, je suis allé à l'université en théâtre. Puis c'est pas mal, c'est ça qui est arrivé. Puis en sortant de l'université, j'ai pris contact avec une compagnie de théâtre qui s'appelle Théâtre Ondinoc, qui est du théâtre mythologique, théâtre mythologique autochtone. C'était Yves Siouit Durand qui était directeur à l'époque. Et puis ça a été une collaboration. J'ai fait 7 ou 8 productions avec Ondinoc. Puis c'est à travers le théâtre et à travers cette compagnie-là, puis la méthode de travail de Yves Siouit Durand, que j'ai reconnecté à une partie de mon identité, la partie de mon identité autochtone, qui n'était pas une partie de mon identité qui avait pris énormément de place quand j'étais jeune. Donc, le théâtre a été vraiment le foyer, le feu qui a permis d'éclairer plein de choses dans ma vie. Donc, si on parle d'une passion pour cette forme d'art-là, c'est très rapidement, c'est un peu ce que je viens de vous dire là.
Alors, Charles Bender, vous êtes Huron Wendat de Wendake, comédien diplômé de programme d'interprétation de Concordia. Je suis tellement content que vous soyez à l'émission. Nous, nous avons démarré cette émission il y a 34 ans avec une autochtone qui était ma co-animatrice à l'époque, qui m'a vraiment inculqué la culture autochtone, l'histoire autochtone dont on ne parle pas assez dans nos médias, dans nos écoles, dans nos universités, nos collèges. Donc, je suis tellement content que vous soyez à l'émission pour éclairer un peu cet auditoire qui méconnaisse encore la culture autochtone du Canada. Et avec tout le respect que je vous dois, je pense que vous êtes un peu une personne un peu à part des autres quand on regarde un petit peu la télévision, nos médias. Je sais que vous avez joué quand même dans plusieurs rôles assez intéressants à Radio-Canada et dans d'autres médias à l'échelle nationale. Mais il y a encore du travail à faire dans notre système médiatique, notre paysage audiovisuel. Je sais que on vous a vu sur le réseau de télévision des Premières Nations et PTN, et c'est pour la même chose pour les autres minorités où on les place souvent dans des radios communautaires, par exemple, ou encore des programmes spécialisés pour des groupes minoritaires, pour les Noirs, par exemple. Alors, vous, comment voyez-vous un petit peu l'avenir de ces cultures qui cohabitent dans ce grand pays que le Canada et surtout la place qu'on doit accorder à la culture autochtone?
Ben, je pense que vous l'avez bien représenté. Là, je veux dire, c'est encore très niché. Il y a une difficulté à avoir une bonne représentativité dans les médias en général. Et ça, je parle très en général, à la fois pour les Autochtones que pour les gens racisés ou toute autre personne qui se considère comme faisant partie d'un groupe minoritaire. D'ailleurs, je suis président du comité pour la diversité. En fait, il change de nom, là, parce que c'est très large parler de diversité, mais président du comité pour la diversité du Conseil québécois du théâtre. C'est des enjeux auxquels on fait face à tous les jours. C'est comment est-ce qu'on va faciliter, permettre, encourager le milieu à avoir plus de diversité. Plus de diversité, ben ça commence évidemment par plus de diversité dans les auteurs qui vont être joués sur les scènes au Québec, plus de diversité dans les acteurs et les actrices qu'on va voir, les visages qu'on va voir sur scène, mais aussi plus de diversité dans qui a les rênes du pouvoir, des directrices artistiques, des gens sur les conseils d'administration, s'assurer qu'on essaie d'être le plus représentatif possible. Et puis, ça vient avec toute une série d'enjeux, là. Mais je pense que le premier enjeu, l'enjeu le plus important, c'est de défaire l'idée que on va dire le groupe dominant, qui, on va se le dire, c'est les gens qui sont de descendance européenne dans la plus grande partie, dans la majorité des cas, ne sont pas le neutre absolu. C'est pas des gens qui peuvent jouer tout ce qu'ils veulent et n'importe quoi, alors que les gens qui sont issus de groupes racisés ou minoritaires ne peuvent être que quelqu'un de représentant de ce groupe minorisé ou identitaire, minorisé ou racisé. Je sais pas si vous me suivez jusqu'à présent, là, il y a vraiment tout ce mythe-là à déboulonner puis faire en sorte que tout le monde ait accès à toute la variété de rôles disponibles. Puis ça, c'est une des premières étapes à laquelle on doit s'attaquer. Puis, malheureusement, il y a encore, je parle d'ici, là, dans mon milieu ici au Québec, je sens une volonté de changement, je sens que beaucoup de gens dans des postes clés, dans les grands théâtres, sont prêts à parler fort pour avoir plus de diversité, pour faire rentrer du sang neuf dans leur théâtre, puis d'être beaucoup plus représentatif, et ça, je l'applaudis, j'en suis hyper content. On accusait un certain retard au Québec, mais je sens qu'il y a des efforts sincères et très louables et très inspirants qui sont en train d'être faits en ce moment dans mon milieu. Il y a encore énormément de travail à faire, pour pas se le cacher.
Soutenir l'essor des cultures autochtones dans le paysage culturel du Canada, on peut vous voir dans plusieurs vidéos sur YouTube et en français. Vous interpellez le monde du théâtre à impliquer les jeunes talents autochtones dans les milieux artistiques. Comment expliquez-vous que les communautés majoritaires, anglophones ou francophones, et les nouveaux immigrants sont si éloignés des peuples autochtones? Quoi faire pour les rapprocher, pour qu'il y ait vraiment un dialogue entre toutes ces cultures?
Mon Dieu, Déjà en partant, c'est parce que on s'entend que les Autochtones ont été invisibles pendant tellement longtemps. C'était considéré comme pas important. Je veux dire, jusqu'à tout récemment, je vais vous donner l'exemple suivant. On va retourner un petit peu en arrière, on va aller dans les années 90, hein, la crise d'Oka.
Oui.
Moi, je me souviens à cette époque-là que ce qu'on enseignait à l'école, moi, ce qu'on m'avait enseigné dans mes cours à l'école, c'était que quand Jacques Cartier est arrivé et a découvert le Canada, il y avait quelques Autochtones, ils lui ont donné de la tisane pour se guérir du scorbut. Après ça, les Européens se sont installés, ils ont fait la traite de fourrure. Ils n'ont pas été très gentils avec les Autochtones parce qu'ils ils les forçaient à donner beaucoup de fourrure pour très peu, pour pour les fusils et pour des morceaux de miroir. Et puis après ça, les Autochtones disparaissent. Les Autochtones n'existent plus dans le narratif colonial. Une fois que ça s'est fait, on reconnaît que dans la traite des fourrures, des fois, il y avait des abus, mais après ça, ça disparaît complètement. Et puis là, tout d'un coup, en 90, il y a la crise d'Oka, et tout d'un coup, on est capable de faire le saut cognitif entre le pauvre noble sauvage qui a été abusé pendant la traite des fourrures et les maudits sauvages qui mettent des barrages sur un pont. C'est, pour moi, ce saut-là, ce gouffre-là qu'il avait accompli me donne le vertige. À quel point les gens étaient laissés dans l'ignorance, à quel point l'histoire leur était racontée d'une manière absolument indécente, et comment est-ce que les gens pouvaient faire le saut cognitif, comme je disais, entre parler des pauvres autochtones qui ont été abusés pendant la traite des fourrures, puis les maudits sauvages qui bloquent des ponts. C'est complètement absurde. Fait que là, qu'est-ce qui arrive? On fait un grand rapport, une grande commission royale qui va encore une fois jeter un regard sur ce qui se passe avec les Autochtones. On en parle pendant quelques mois dans les médias. La ministre des Affaires indiennes, dont je ne me souviens plus le nom de l'époque, fait « Oui, c'est mon livre de table de chevet, ça ne sera jamais tabletté. » Et peut-être 2-3 ans plus tard, on n'entend plus du tout parler. Jusqu'à ce qu'on fasse une commission de vérité-réconciliation qui est sous ma rapport en 2015, et à peu près toutes les appels à l'action de ce rapport-là sont des appels à l'action qui est apparu en 96 dans le rapport de la Commission royale. Et là, c'est ahurissant. C'est aberrant de voir à quel point le discours est répété constamment, les appels aux actions restent exactement les mêmes, la crise reste exactement la même. Donc, faut arrêter d'invisibiliser les enjeux des Autochtones. Faut que les gens s'ouvrent les yeux. Faut que les médias le traitent d'une manière balancée. On ne parle pas juste des problèmes aussi, s'il vous plaît. On peut aussi parler des bons coups. On peut célébrer la culture autochtone. On peut célébrer la route des Powwows, par exemple. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font déjà. On peut célébrer la vitalité de sa communauté artistique. Puis je reviens encore à ça. Je viens juste de traduire Half-Breed de Maria Campbell. Et puis en 73, Maria Campbell parlait exactement des mêmes enjeux et des mêmes problèmes et proposait les mêmes solutions que celles qui ont été proposées en 96, celles qui ont été proposées en 2015. Et celles qui, si on ne fait rien, vont encore être proposées en 2030. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit fait de ce côté-là, qu'on s'ouvre les yeux et qu'on commence à reconnaître ces enjeux-là et qu'on y travaille pour de vrai.
Oui. Ou sinon, gouvernement après gouvernement, ils passeront leur temps à demander pardon aux Canadiens. Mais ça ne change pas.
Demander pardon, à rien faire, à faire comme « Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? » On est arrivé ici et le pape nous avait donné le droit de prendre possession de ces terres-là, de ces terres impies,
oui.
Avec le concept de terra nullius. Alors voilà, ben, on est ici maintenant, vous n'avez pas le choix. Oui. On sait le Canada, c'est une terre coloniale et vous devez vous en accommoder. Mais c'est comme, ben, c'est un peu absurde, c'est un saut un peu difficile à faire de dire « Ben oui, mais c'est qui vous avez donné la permission de prendre possession de ces terres-là? » Ah, c'est une bulle papale obscure qui disait que si vous n'étiez pas chrétien, on avait le droit de posséder vos terres.
Alors, justement, maintenant, nous allons parler de ce fameux livre « Half-Breed », écrit par Maria Campbell, un grand classique canadien incontournable, un classique de la littérature métisse de la Saskatchewan, enfin traduit en français par les éditions Prise de Parole. Vous et Jean-Marc Adalpé, dramaturge, scénariste, poète et comédien franco-ontarien très connu, en sont les traducteurs. J'aimerais qu'on aborde justement avec vous, si vous le voulez bien, le processus de traduction de Half-Breed de notre partenaire, les éditions Prise de Parole. Ce livre dépeint les réalités qu'elle a endurées et surtout surmontées. Un livre poignant, cru, plein d'émotions, un récit extraordinaire écrit par une jeune femme métisse qui ouvre la porte à un monde méconnu, qui coexiste avec la société canadienne. Et selon l'Encyclopédie canadienne, au Canada, les premiers traducteurs ont été les Amérindiens. On le sait, toutes les œuvres littéraires ne sont pas si simples à traduire. Pouvez-vous nous expliquer votre démarche et les différentes étapes qui ont conduit à la traduction de ce grand classique canadien? Quelles ont été les étapes à suivre en tant que traducteur?
Oh mon Dieu! Comment est-ce que je pourrais commencer? Ben, il y a une première chose qui doit être dite à propos de Half-Breed, c'est que ça n'avait jamais été traduit en français. Le livre est sorti en 73 et ça n'avait jamais officiellement été traduit en français. Il n'y avait pas de version imprimée en français. C'était un manque immense. Et moi, une des choses que j'essaie de faire, une des choses qui m'apparaît importante, c'est de créer des ponts entre les Autochtones du Québec, qui ont le français comme langue coloniale, et les Autochtones du restant du Canada, qui sont pris avec l'anglais comme langue coloniale. Moi, je pense qu'il y a des ponts qui doivent être créés entre ces deux nations-là, parce qu'on a évolué en parallèle à cause, justement, de la scission qui a été imposée par ces deux langues coloniales-là. Donc, ça allait de soi que je voulais que le texte de Maria Campbell, qui, moi, m'avait inspiré, soit disponible pour mes frères et mes sœurs autochtones dans le restant du Québec, mais aussi le rendre disponible pour les autres francophones du restant du Canada. Je veux dire, c'est un texte fondateur de l'identité autochtone et métisse au Canada, mais de par le fait même devient un texte essentiel pour comprendre l'identité du Canada même. Donc c'est essentiel de le rendre disponible en français, selon moi. Mmh. Éventuellement, un jour, ça sera le fun si on est capable de rendre disponible dans plein d'autres langues autochtones, mais chaque chose en son temps, ça sort un peu de mes compétences.
Half-Breed, dans ce livre, Maria Campbell souligne les différences entre les Autochtones et les Blancs, ainsi que celles des Indiens inscrits et des Autochtones non inscrits. Les Blancs, les Autochtones de sang pur, l'ont rejeté en raison de sa désignation comme Autochtone sans statut, autrement connu sous le nom de Métis. Rempli d'un fort sentiment de ressentiment et de colère, la quête d'identité de Campbell et sa lutte pour surmonter la pauvreté, la discrimination, la cruauté vécue par les Métis sont décrites dans ce roman comme infernales. La définition de l'identité métis ne fait pas consensus. C'est un sujet complexe et qui suscite bien des débats. On peut lire dans ce livre... sans penser aux femmes, les filles autochtones disparues, les assassinées, en Saskatchewan, vous êtes au courant sans doute, au Canada, plus d'un millier de femmes autochtones ont disparu ou ont été assassinées dans les 40 dernières années. Mais la GRC, la Gendarmerie royale du Canada, et les organismes autochtones estiment que ce chiffre serait beaucoup plus élevé. Le premier ministre canadien parle d'un génocide culturel, mais le rapport d'une enquête sur les femmes autochtones dénonce plutôt un génocide canadien. Quelle est votre réaction, parce que tout ça est traité dans ce livre, quelle est votre réaction sur ces tragédies qui ont bouleversé tant de familles autochtones? Et quand vous avez traduit ce texte de Maria Campbell, est-ce que les événements justement que nous avons vécus envers les femmes autochtones ont tramé dans votre mémoire pour pondre la traduction que nous connaissons aujourd'hui?
Il y a beaucoup d'éléments à votre question. on va commencer avec la fin, avec la dernière partie de votre question. Ce qui est étonnant, puis c'est quelque chose que je mentionne souvent, c'est que le livre est sorti en 73 et décrit tellement bien quelle chute peuvent subir une femme métisse ou une femme autochtone pour en arriver à un point où est-ce qu'elles sont dans un état de vulnérabilité immense qu'elles peuvent ne jamais s'en sortir vivantes. C'est quelque chose qui est encore actuel. Je dis souvent que c'est pas anodin le fait que notre traduction, en fait, que le livre de Mary Campbell, parce qu'il a été réédité et il est sorti à nouveau en anglais aussi, en y rajoutant les paragraphes qui font référence à un viol qu'a subi Maria aux mains d'agents de la GRC et qui avait complètement été effacé de la première édition de 73. Le fait que nous, notre traduction sorte sur les talons de cette deuxième édition, de cette réimpression du livre de Maria, c'est pas anodin parce que ça soit tout de suite après le rapport sur les femmes disparues et assassinées. L'histoire de Maria, comme je le disais, comme je le mentionnais précédemment, c'est vraiment l'histoire d'une femme qui tombe dans une situation d'extrême vulnérabilité. Et c'est pas à cause des choix qu'elle a faits. Elle tombe dans une situation d'extrême vulnérabilité à cause des obstacles systémiques qui sont mis dans son chemin, à cause des choix de vie qu'elle n'a pas le choix de prendre, à cause de la construction du système qui devrait être là pour la supporter, mais qui crée des failles à travers lesquelles elle ne peut pas faire autrement que de tomber. Donc voilà, oui, pour répondre à ça, je veux dire, c'est pour quelqu'un qui a été troublé, qui s'intéresse et qui a été troublé par la question des femmes autochtones disparues et assassinées, le livre de Maria Campbell est un livre, malgré le fait que 673 est un livre brûlant d'actualité et qui décrit très très bien de quelle manière cette chute-là peut s'opérer.
Half-Breed de Maria Campbell aux éditions Prise de Parole. Maria Campbell, faut bien le rappeler, une écrivaine, dramaturge, cinéaste, universitaire, enseignante, et ce livre est une œuvre fondamentale de la littérature autochtone au Canada. Elle est l'auteur de plusieurs autres livres et pièces de théâtre, et a réalisé, écrit des scénarios pour un certain nombre de films. Elle a également travaillé avec des jeunes autochtones dans le théâtre communautaire et a plaidé pour l'embauche et la reconnaissance des peuples autochtones dans les arts. Elle a encadré de nombreux artistes autochtones au cours de sa carrière, a coétabli des abris pour les femmes, les enfants autochtones et a dirigé un camp d'écrivains. Maria Campbell est officier de l'Ordre du Canada et détient 6 doctorats honorifiques. Et c'est sur prisedeparole.ca, Half-Breed, qui est traduit par Charles Bender, qui est avec nous aujourd'hui, et Jean-Marc Dalpé. D'ailleurs, vous avez réalisé une entrevue, j'ai vu ça quelque part, avec Jean-Marc Dalpé. Ça s'est bien passé?
Une entrevue que j'ai faite avec Jean-Marc? Oui. Ça fait longtemps que je connais Jean-Marc. On a fait un spectacle qui s'appelle le Wild West Show.
C'est ça.
On s'est rencontrés. Puis depuis, on est resté en contact. Puis on a d'autres projets en tête. Là, on continue à arriver à d'autres projets. Je suis sur un autre projet de traduction pour une pièce de théâtre de Ken Williams, Thunderstick. Et puis Jean-Marc m'appuie là, dans ce projet de traduction là. Puis on a pensé à d'autres choses là, qu'on aimerait faire ensemble. Là, peut-être un projet de enfin. C'est une belle amitié qui est née du Wild West Show. Donc, on a eu l'occasion de faire des entrevues ensemble à quelques reprises. Là. J'essaie de me souvenir si on en a fait. Oui, on en a fait une pour Half Breed ensemble.
Oui. Je vois aussi quelque part, vous avez. Oui. Je vois quelque part aussi, vous avez, produit Where the Blood Mixes, là où le sang se mêle, au Québec. Autre belle traduction. C'était en 2019. Et tous les spectacles, d'ailleurs, se terminent par un cercle de partage avec le public. On dit dans la programmation, « All shows will end with a sharing circle with the public. » Alors,
oui,
ça,
oui.
C'est assez émouvant de voir que dans une pièce de théâtre, on peut faire le pow-wow, par exemple, à la fin de votre pièce.
En fait, il faudrait faire une distinction. Le power et le cercle de partage sont deux choses quand même très distinctes.
Oui.
Mais oui, en fait, ce qui arrivait, c'est que ma version de Là où le sang se mêle, la mise en scène que je voulais en faire, c'était un cercle de partage. Donc, les personnages, au lieu d'être dans une, on va dire, une mise en scène peut-être un peu plus classique, un petit peu plus lieu par lieu,
oui.
J'ai tout transformé la prémisse de base. Comme quoi les personnages sont dans un cercle de partage, et puis la pièce se déroule au centre du cercle de partage, comme si c'était un témoignage que les personnages faisaient. Donc c'était tout naturel, une fois que la pièce était terminée, que ce soit autour du public de faire leur partage, qu'eux autres aussi puissent déposer un témoignage au centre du cercle.
Et je rappelle, Jean, que vous avez été aussi présentateur à la très remarquable émission de Radio-Canada, 8e Feu, une série documentaire abordant une variété de questions contemporaines touchant les Premières Nations. Vous avez eu l'occasion de travailler sur plusieurs productions en français qu'en anglais. C'est ça votre atout, hein, parce que vous maniez très bien les deux langues. Vous êtes encore jeune, dynamique. Vous êtes vraiment un vrai ambassadeur, je pense, pour les peuples. peuple autochtone, mais aussi pour les Canadiens en général. On devrait vous voir un peu plus souvent.
J'y travaille.
Écoutez, c'est... Oui, allez-y.
Non, allez-y.
Alors, en tout cas, c'est tout un honneur de vous recevoir pour la première fois. J'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir à notre émission très prochainement. Tous les liens de votre site, de vos œuvres sont sur notre site web, popourrichaud.com, et cet entretien sera disponible après 13 heures aujourd'hui pour télécharger. Alors, Charles Bender, bravo. Toutes nos félicitations pour cette belle traduction. Et j'espère que le confinement ne vous affecte pas trop, non, avec la famille?
Non, on trouve le moyen de travailler. Ça m'a permis de reconnecter avec ma fille, parce qu'avant le confinement, j'étais souvent en tournée. Puis le confinement m'a permis, d'ailleurs ma conjointe m'a dit souvent, c'est vraiment le fun de t'avoir à la maison.
Ouais.
Fait que je passe beaucoup de temps avec ma conjointe et puis avec ma fille. Fait que j'ai quand même trouvé le moyen de voir le silver lining. j'ai pu trouver les aspects enrichissants du confinement. Mais là, je pense qu'il est temps de retourner dans les théâtres. Je travaille sur un projet de théâtre en ce moment, puis j'aimerais vraiment qu'il y ait du public.
Oui.
La passion, mais le public commence à me manquer.
Ah, j'imagine. Charles Bender, traducteur, un des traducteurs de ce beau livre que je vous recommande, madame, monsieur, Half-Breed, de Maria Campbell. Merci encore une fois, et que la force soit avec vous, cher ami.
Et avec vous de même.
Au revoir.
Au revoir.
Culture d'Haïti et d'ailleurs, croisons nos regards dans Causer Kilti, le rendez-vous des cultures en Haïti, tous les dimanches après-midi à 1h33 et 8h33 sur RFI.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you Democracy Now! With Amy Goodman, Monday to Friday, 10 to 11 a.m.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city. Your radio, CIUT 89.5, the sound of your city.
France 24, 4 chaînes d'information continue, 430 journalistes, 35 nationalités, 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. 55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 31%. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur france24.com. Et 40 millions de vidéos vues en ligne. France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci.
Du 10 au 18 avril 2021, le Festival Ciné Franco Jeunesse et Famille est votre destination pendant les vacances scolaires. Parmi nos coups de cœur, Le Prince oublié de Michel Hazanavicius, une comédie aventure, une coproduction France-Belgique sous-titrée en anglais. Le 7e film de Michel Hazanavicius, Le Prince oublié, est la complainte d'un conteur sans public. Le réalisateur a imaginé un père joué par Omar Sy, dont les histoires prennent forme. Reste que Omar Sy, père célibataire, qui adore raconter des histoires à sa fille avant qu'elle ne s'endorme, se retrouve démuni lorsque celle-ci, à l'adolescence, se lasse de ce rituel. Un homme qui n'arrive plus à toucher son public, un conteur qui n'intéresse plus grand monde. De gigantesques décors clinquants, le 7e film de Michel Hazanavicius, Le Prince oublié, la complainte d'un conteur sans public. Dans leur monde imaginaire, le prince va alors devoir affronter la plus épique de toutes ses aventures pour conserver une place dans l'histoire. Des récits extraordinaires qui prennent vie dans un monde imaginaire. Le Prince oublié, du 10 au 18 avril 2021, présenté par le Festival Ciné Franco Jeunesse et Famille, c'est votre destination pendant les vacances scolaires sur www.cinefranco.com. Dans quelques minutes, nous accueillerons avec plaisir Marceline, la fondatrice de Ciné Franco, qui nous présentera toute la programmation du Festival Ciné Franco Jeunesse et Famille du 10 au 18 avril. Mais d'abord, la bande-annonce, Le Prince oublié, Manetio, DJ de Vera.
Il aurait escouché un. Faites vite.
Sinon, il est trop tard pour l'histoire.
Alors, on était où déjà ?
Chaque soir, au moment de l'endormir, le père de Sophia devient le prince d'un monde merveilleux inventé pour elle.
Début de l'histoire dans 2 minutes.
Et chaque soir...
J'arrive, princesse !
Le prince sauve sa princesse. Jusqu'au jour où...
Commence à pas d'histoire.
Papa, j'ai 12 ans. Je peux me les faire toute seule mes histoires maintenant, tu comprends ?
C'est la fin, mon pote.
Bonjour. Max.
Monsieur, vous pouvez pas entrer. Le prince va arriver.
Je suis le prince.
Il arrive. Le prince.
C'est quoi ça ?
Mon père a toujours été très présent. Mais à un certain âge, j'aimais bien qu'il me laisse un petit peu d'air.
Les oubliettes, c'est là où on envoie les personnages quand ils sont plus dans aucune histoire. Ils disparaissent. Pour de bon.
Welcome to the oubliette.
Tu peux m'expliquer ça ? C'est tout de moi.
Tu regardes pas mes textos.
Je fais ce que je veux, je suis ton père. Vous les connaissez en fugue ?
Vous êtes un super papa. Il faut bien la laisser grandir.
Moi bloqué ici, et donc c'est sans issue.
Ne laisse pas oublier, prince !
Et toutes ces histoires, alors pour finir oubliées ? La princesse est en danger, il faut que j'y aille.
Bonjour Marceline, comment allez-vous en ce temps de chien ?
j'allais dire comme un chien, mais pas tout à fait quand même.
C'est pénible hein, cette histoire de coronavirus. Vous savez quoi ? Ma chère Marcel, j'ai fait un rêve. Nous étions tous les deux dans chambre à part, bien sûr, dans un grand hôtel à Paris, à visionner les films que nous avons toujours rêvé de voir, surtout depuis le début du confinement. Une expérience incroyable. C'était au tout premier cinéma Hôtel Paradiso, qui a ouvert ses portes à Paris le 5 mars dernier, un vrai paradis pour les cinéphiles. Est-ce que, d'après vous, c'est l'avenir du cinéma ?
C'est possible, parce que l'avenir du cinéma est maintenant plus chez soi, et peut-être même dans des résidences, qu'au cinéma même.
Alors, Toronto, le monde entier traverse par une épreuve inédite. Ciné Franco-Jeunesse n'a pas encore dit son dernier mot. Toute une programmation sur mesure, en ligne, du 10 au 18 avril, dans tout le Canada. Pourquoi pas à l'étranger ? Parce que je reçois des appels de mes amis en Italie, à Milan.
Eh bien, on n'en a pas les moyens, vraiment. Alors, voilà.
Alors, comme partout ailleurs, la pandémie connaît un rebond, mais les étudiants, en vacances, du 10 au 18 avril, dans la région de Toronto, l'Ontario ou le Canada, n'ont pas à s'inquiéter, n'est-ce pas ? Ils peuvent en toute sécurité s'amuser, voyager avec les films de Ciné Franco. Et tout se passe en ligne, from coast to coast, comme on dit au Canada.
Oui.
Une programmation de rêve, en passant par de la comédie, des films d'animation, des courts-métrages franco-ontariens. Alors on ira au Maroc, en Belgique, en France. Il y a même un petit clin d'œil entre le Québec, la Syrie et les Premières Nations. Je ne sais pas comment vous avez fait. C'est tout un métissage. Alors parlez-nous un petit peu justement, pourquoi le choix de ces films et qu'est-ce que vous attendez de ces élèves, de ces étudiants et aussi des adultes, hein, parce que c'est ouvert à tout le monde.
Nous avons tout, bien sûr, je dirais que tous nos films sont pour tout public, sauf quelques-uns qui sont déconseillés aux enfants. Nous avons 3 films qui sont tout à fait nouveaux dans notre répertoire. C'est Mika, donc franco-marocain, Un vrai bonhomme, et puis Place des Victoires. Oui. Je dirais que ces 3 films sont déconseillés aux enfants, mais plutôt tournés vers les adultes.
Oui, mais Mika... Quel bonheur. Quand on regarde ce qui est en train de se passer avec ces jeunes qui se jettent à la mer pour trouver l'Eldorado.
Oui, exactement. C'est triste. Mais en même temps, ce film, justement, veut montrer qu'il y a de l'espoir, que les portes sont ouvertes dans le pays où ces jeunes sombres, comme dit le réalisateur, sombres dans la déchéance et le désespoir.
Alors c'est un drame, mais en même temps, d'ailleurs, il est quoi, marocain, mais il vit en, le réalisateur est marocain, mais il vit en France.
C'est un franco-marocain. Je crois qu'il est, il est venu en France à l'âge de 10 ans.
Oui, on parle ici de Ismaël Ferrouki. Et c'est un film débordant d'humanité, tourné à Casablanca. Et vous savez, on connaît très mal le Maroc au Canada. Alors, parlez-nous sans dévoiler le clou du film, mais un peu la trame de cette histoire.
Oui, en effet. Moi, je crois que, plutôt que de la trame, je crois que c'est un portrait d'une société. Et ce qui est extrêmement important, c'est la valeur de la langue. Le français est parlé par les riches et l'arabe par les pauvres, par les démunis. Et c'est très très important ce fossé linguistique parce qu'il veut tout dire en fait.
Et alors c'est un enfant qui vit dans un bidonville, qui trouve sa place une cour de tennis.
C'est ça, dans un club de tennis privé. Mmh. Effectivement, et l'homme à l'âge de 10, entre 10 et 12 ans, c'est l'homme à tout faire. Et c'est lui qui doit maintenant être le gagne-pain de sa famille.
Oui.
Qui vit à Meknès.
Et je pense que ce film a été réalisé parce que le réalisateur a été touché par la violence des inégalités sociales dans ce pays, le Maroc. Et il dit, et je cite, « Je me suis toujours intéressé au destin de cette jeunesse qui sombre dans la déchéance et le désespoir. » Alors, tous les jeunes, à l'âge de 10, 12 ans, on a toujours un rêve, n'est-ce pas? Et on pense toujours que l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté, chez son voisin, n'est-ce pas?
C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, dans le film, c'est Marseille qui a l'air d'être la lumière qui va accueillir deux jeunes, dont Mika. Et donc, il y a quand même Sabrina Ouazani, celle qui joue le rôle de l'ex-championne de tennis et de la monitrice, qui va essayer de raisonner justement Mika, lui dire que c'est un rêve, que c'est faux. On va pas l'accueillir à bras ouverts.
Mais, alors, c'est encore malheureusement le sujet d'actualité en Europe pour beaucoup d'Africains, pour beaucoup de gens qui traversent les frontières comme ça et souvent périssent en mer, n'est-ce pas? C'est un drame humain.
Et drame humain d'une tragédie incroyable et inhumaine.
Oui. Mika, une coproduction Maroc-France, en français, sous-titrée en anglais, sur cinefranco.com. Et bien sûr, c'est du 10 au 18 avril. C'est dans le cadre du festival Ciné Franco Jeunesse et Famille. C'est un film que je recommande aux adultes.
Tout à fait. Moi, je dirais qu'à partir de 14 ans, on peut voir le film. Déconseiller aux enfants, comme j'ai dit. Et puis, bien sûr, il faut un petit peu de maturité pour bien comprendre ces inégalités et les humiliations que ce petit garçon subit dans le film.
Oui. Alors, et puis Place des Victoires, aussi réservée aux adultes, dites-vous?
Je dirais que c'est pour les 16 ans et plus, parce que là encore, on parle de la précarité de deux personnages. Un homme professionnel qui est en pleine chute sociale, professionnelle et humaine, disons. Et puis, ce petit garçon qui, au départ, lui vole son portable et devient son ami. La chose un peu délicate, c'est qu'il y a une amitié merveilleuse entre ces deux êtres, mais en même temps, ils vivent de vol.
Oui.
Et c'est un peu immoral. C'est pour ça que je ne le conseille pas aux enfants et que les adultes devraient accompagner leurs adolescents pour mettre les pendules à l'heure. Quand même.
Bruno, un chômeur dépressif qui rencontre un jeune Rome. Alors, pour les gens, les Canadiens qui connaissent pas ce terme, on dirait, dans le passé, on les appelait bohémiens un peu, hein, n'est-ce pas?
On les appelait les gitans, les gitans. Les ciganes.
Oui, voilà.
Voilà.
Et on en trouve partout en Europe, quand je suis à Milan, à Rome, on est toujours accosté de ces gens qui tendent à la main, qui nous demandent de l'aumône, mais ce sont des voyageurs, hein.
Oui, c'est ça, les gens du voyage, effectivement.
Place des Victoires de Johan Giyuzuk, oui. Une comédie dramatique. C'est toujours sur cinéfranco.com du 10 au 18 avril. C'est une comédie dramatique, je dis bien, un film français sous-titré en anglais. Un personnage, ce gamin espiègle, malicieux, qui interprète son rôle avec brio, une belle présence à l'écran. Et le film ne manque pas de tendresse aussi et d'une certaine poésie, il faut bien le dire.
C'est vrai. C'est la première fois que ce gamin joue justement. Et il vient de Roumanie. Et il ne savait pas lire en français. Alors il a appris son texte oralement, verbalement.
Ah, le Festival Ciné Franco Jeunesse et Famille, qui nous fait voyager, découvrir d'autres cieux, d'autres mondes. Et un film, parce qu'aujourd'hui on reçoit ce grand écrivain, poète, animateur, c'est un acteur aussi, Charles Benders, et il est de Première Nation, il vit à Montréal, qui nous parle d'un livre fabuleux, Maria Campbell, Half-Breed, c'est-à-dire métis en français, dans une traduction réalisée grâce à notre partenaire la Maison Prise de Parole. Et là, vous nous présentez un film que peut-être beaucoup ne connaissent encore, n'ont jamais même entendu, mais moi j'ai suivi un petit peu l'itinéraire de ce film, tourné en 2018 de Lucie Tulu-Gardjouk, Tia et Piujuk. Alors ça, c'est une production canadienne à petit budget, il faut bien le dire, évoquant l'amitié entre une Syrienne de 10 ans réfugiée à Montréal et une fillette Inouk habitant à Igloolik.
Oui, oui, tout à fait. C'est un film qu'on a déjà montré une fois, oui. Dans Perspective Québec, en fait. Et puis, on a voulu le remontrer il n'y a pas très longtemps, c'était en 2020, mais hélas, avec la grève à l'époque des enseignants, on l'a un petit peu gardé dans notre tiroir. Et comme on adore ce film, c'est un film sur l'amitié, sur le parallèle qu'il y a entre ces deux petites filles qui parlent de leur famille, qui parlent de leur tradition et qui ne sont pas si éloignées que ça, en fait. C'est à la fois un film, je dirais, à la fois poétique, mais un film très, très touchant sur aussi, le rôle des générations, le rôle des grands-parents, le rôle de la famille. C'est vraiment très, 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 très touchant. Comme
oui. Et vous savez, avec tout ce qu'on traverse, le Covid qui a suscité malheureusement beaucoup de réticence, beaucoup de racisme envers certaines communautés, pour ne pas parler la communauté asiatique, oui. C'est beau, je pense, de voir ce film où il y a toujours ce rêve que c'est possible de vivre ensemble dans ce pays qu'est le Canada.
Absolument, absolument. Ce n'est pas seulement un rêve, mais c'est une réalité.
Oui. Alors, justement, une des critiques qui dit que c'est un film touchant qui met en scène un univers peu présent dans le cinéma jeunesse, une histoire d'amitié sur fond qui est tondra arctique. Alors, pour les jeunes qui sont à Toronto, ils côtoient souvent des personnes, des étudiants, des amis de classe venant d'ailleurs. Et souvent, il y a une certaine réticence parce qu'on a toujours peur quand on ne connaît pas l'autre.
C'est vrai. Mais je crois que l'atmosphère dans laquelle on vit nous encourage justement à aller vers l'autre. Ayant vécu au Maroc, ayant vécu moi-même en France, ayant vécu en Angleterre et me retrouvant au Canada, je trouve que le Canada nous encourage à tendre la main, à mieux connaître l'autre et à mieux l'accepter. Et c'est un pays magnifique lequel nous vivons.
Et nous avons encore du chemin à faire pour connaître les Premières Nations du Canada. C'est vrai. Si le cinéma, si seulement le cinéma pouvait être ce lien, n'est-ce pas, créer ces ponts, ces passerelles entre les différentes cultures du Canada, ce serait formidable.
C'est vrai, c'est un bel outil le cinéma. cinéma. Ouais, ouais. C'est un bel outil à la fois de découverte et très accessible maintenant, et aussi pour mieux se comprendre. Parlons justement des Premières Nations, une animation Pachamama qui n'est pas sur les Premières Nations ici au Canada, mais qui rappelle beaucoup l'humanisme et la philosophie par rapport à la nature, par rapport aux oiseaux. Pachamama est vraiment un film à voir sur la destruction, par exemple, des conquistadors qui ont obligé les Indiens, donc qui les ont menés à la famine, qui les ont menés à perdre beaucoup de leurs traditions. Et c'est un film Pachamama très humaniste. Oui. Qui est vraiment beau à voir.
À découvrir, madame, monsieur, sur le site du Festival Ciné Franco-Jeunesse et Famille. C'est votre destination, hein, pendant toute la semaine de vacances scolaires, du 10 au 18 avril. Alors, ça a été recalé, hein, parce que d'habitude, les vacances scolaires, c'est au mois de mars.
C'est exact, oui, oui, oui.
Et donc, Ciné Franco vous met plein la vue, madame, monsieur, avec son épatante sélection de films pour grands et petits. Et dans le confort de votre salon, vous n'avez pas besoin de porter de masque, n'est-ce pas?
Oui.
Ou d'être, vous êtes là, les membres de votre famille, donc il n'y a pas de distanciation, comment on dit ça, sociale?
Ah oui, de distanciation sociale.
Alors, vous avez sans doute beaucoup d'autres coups de cœur, mais nous en avons plusieurs, entre autres, Le Prince oublié.
Oui.
Parmi nos coups de cœur, c'est un film de Michel Hazanavicius, une comédie aventure, une coproduction France-Belgique, sous-titrée en anglais.
Oui.
Alors ça, c'est le 7e film de Michel Hazanavicius.
Oui, c'est lui qui a gagné d'ailleurs un Oscar, je crois, pour son film avec Jean Dujardin. Je me souviens plus, mais c'était du... vous savez, c'était un film muet.
Ouais.
Hein, il y a quelques années, oui, 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 tout à fait. Et bien sûr, Le Prince oublié, c'est une grosse fantaisie. On dit que les effets spéciaux sont mieux que ceux de Hollywood. Il y a le charisme d'Omar Sy dans un conte farfelu où l'amour du père vis-à-vis de sa fille s'exprime par des contes. Et bien sûr, d'une façon assez... Je ne sais pas si c'est subtil, mais certainement vrai, quand le père, l'image du père est remplacée par l'image du garçon qu'on aime. Et évidemment, ça devient très, très, très comique, cette compétition, cette rivalité entre le père et l'amoureux de cette petite fille.
Mais moi, je fais mes yeux, je pense à Omar Sy. D'ailleurs, il faut bien dire que Omar Sy est sur une ascension incroyable. Hein,
oui, c'est vrai.
Et quand on parle de la diversité au niveau du cinéma, de voir que comment expliquer ce succès de Omar Sy qui est si bien accepté dans presque tous les rôles.
C'est vrai. Mais je pense que d'abord, il y a un immense talent.
Oui.
Il y a un immense charisme. Et puis, il doit avoir un bon agent aussi.
Oui. Mais il a un charisme. Il faut avoir du talent. Parce que moi, j'ai beaucoup d'agents, mais personne ne m'appelle.
Non, vous avez du talent. Regardez l'émission qui a duré, ça fait combien de temps? 30 ans, maintenant.
34 ans. 34 ans. Alors, Omar Sy, père célibataire, qui adore raconter des histoires à sa petite fille avant qu'elle ne s'endorme. Tous les papas font ça, n'est-ce pas? Les mamans aussi.
Oui.
Mais voilà, il se trouve démuni lorsque celle-ci, c'est-à-dire la petite fille, à l'adolescence, se lasse de ce rituel. Donc, un homme qui n'arrive plus à toucher son public, un conteur qui n'intéresse plus au grand monde.
Oui, ça arrive, hélas.
Alors, c'est vraiment très bien fait, je trouve, ce film.
Oui. D'abord, c'est un véritable spectacle visuel. C'est très, très beau parce qu'on passe justement dans des décors de cinéma.
Oui.
Et puis, il y a aussi ce côté humain, ce côté la famille. On parle encore de l'importance de la famille et de ce que les adultes font pour leurs enfants.
Oui. Alors, c'est sur www.cinefranco.com du 10 au 18 avril 2021, dans le cadre du Festival Cinéfranco Jeunesse et Famille. Le Prince oublié, c'est un film que je vous recommande personnellement.
Merci, c'est vrai, et c'est un très beau film.
Oui, et maintenant, j'aimerais bien qu'on parle de ces coups de cœur, courts-métrages à franco-ontariens. Vous nous plongez vraiment, c'est très rare d'ailleurs, qu'on prenne du temps pour comprendre qu'il y a aussi un cinéma franco-ontarien.
Tout à fait. On a voulu justement mettre en valeur le côté franco-ontarien, parce qu'il faut dire aussi que notre bailleur de fonds est le ministère des industries du patrimoine, du tourisme, du sport et de la culture. Et nous voulions justement rendre hommage à l'Ontario avec ses courts-métrages. Il y en a un qui est absolument hilarant et très sérieux en même temps, c'est « Et puis nous autres » dans tout ça. Alors, en gros, c'est une Andréane Germain, la réalisatrice, se promène, je crois, dans la ville de Québec avec un drapeau franco-ontarien, un drapeau, et elle demande, c'est la journée nationale du Québec, et elle demande aux gens qu'est-ce que c'est que ce drapeau. Et là, il y a tout un déferlement d'avis qui est vraiment, ça c'est hilarant, parce que on prend ce drapeau pour un drapeau irlandais, on prend, enfin bref, c'est très 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 amusant, et un peu triste aussi, parce que justement ça prouve que les franco-ontariens doivent être mieux connus par les communautés francophones canadiennes. Alors, un de mes favoris de tout temps, c'est le film de Jocelyn Forgue, Mémoire d'un magasin général. Là aussi, c'est une petite ville franco-ontarienne où une petite fille de 12 ans, cette petite fille d'ailleurs est la fille de Jocelyn, et elle doit faire un devoir de fin d'année, et elle va filmer le gérant du magasin général, qui lui va lui parler de son expérience pendant la Deuxième Guerre mondiale. Personnellement, je n'ai jamais entendu un récit aussi convaincant et aussi concret de cet aspect à la fois physique, sensible d'un soldat qui doit subir les odeurs, la peur, les obus. Enfin, c'est vraiment un récit extraordinaire.
Oui. Alors, donc, c'est un film à voir absolument, que je vous recommande, madame, monsieur. C'est de
Je ne veux pas... Pardon, Eric, mais Jean-Marc Larivière aussi.
Oui.
A deux courts-métrages qui sont absolument à voir également et très touchant.
Oui, alors d'ailleurs, Jean-Marc Larivière qui est né à Hawkesbury, en Ontario,
oui.
Dans l'est de l'Ontario, pas très loin de la ville du Canada. Alors, le premier, c'est sur le bord du lac,
oui.
Du lac Ramsey qu'on parle ici.
Exactement, exactement, qui est qui est vraiment un poème,
mm-hmm.
Qu'ils mettent en image. Et le deuxième, c'est Poussière de toi. Qui m'a fait pleurer, qui me fait toujours pleurer, sur un souvenir, justement, comme une commémoration de quelqu'un qui l'a connu.
Oui, alors 13 secondes pour escaper un petit disparu de l'oubli.
Voilà.
Et Des poussières de toi de Jean-Marc Larivière, oui. Tourné en 2012,
oui.
Et de 4 minutes. Et non, c'est des petits bijoux, et voilà une très bonne façon de rendre une certaine reconnaissance envers les cinéastes franco-ontariens qui sont toujours méconnus. Hein.
C'est vrai, hélas, qui sont méconnus et qui ont un immense talent. Mais l'industrie du cinéma franco-ontarienne est vraiment en train de se développer de manière à la fois positive, bien sûr, et brillante.
Oui. Alors, voilà, il y en a pour tous les goûts, comme on dit.
Oui. permettre de parler d'une animation que j'aime, oui, que j'adore, et qui s'appelle Le Tableau.
Oui, bien sûr.
Jean-François Laguioni est justement le cinéaste du Tableau. C'est lui qui a fait aussi Le Voyage du Prince, qu'on a montré la dernière fois. Et Le Tableau est absolument magnifique. C'est une sorte d'histoire un petit peu de l'art, mais dans une animation de deux personnages qui sautent de leur tableau pour aller chercher. D'abord, il recherche le peintre parce qu'il n'a pas terminé le tableau dans lequel il faisait partie. Et il saute d'un tableau à un autre. Et chacun des tableaux est un commentaire à la fois sur l'art, mais aussi sur la société. Il y a par exemple un tableau où on voit des personnages qui sont tout finis, pas finis, rough, et qui parlent aussi des inégalités sociales. Il est magnifique, cette animation est magnifique. Oui. Il faut absolument la voir.
Et juste après cet entretien, chère Marceline, nous allons entendre la bande annonce, la bande sonore d'un film aussi que j'aime beaucoup, La Grande Cavale, oui, Spy Cat en anglais, des réalisateurs oscarisés Christophe et Wolfgang Landstein, sorti en septembre 2020, savoureux film d'animation qui saura plaire à tous grâce à son énergie, son inventivité, son ironie et ses sympathiques références.
Oui, tout à fait. Référence à Alfred Hitchcock même, parce que le personnage principal, qui est une petite chatte adorable, elle s'appelle Marnie, comme le titre d'un des films d'Alfred Hitchcock.
Ouais. Alors, non mais c'est passionnant, alors bravo, félicitations, je ne sais pas comment vous faites. Continuez à nous faire rêver, vous êtes notre thérapeute culturelle, la reine du cinéma de Toronto, du Canada, parce que vous êtes quand même maintenant vue pan-canadien, hein, il faut bien le dire. Et notre invitée aujourd'hui, Marceline, l'infatigable, la passionnée, la grande dame, la fondatrice et directrice artistique de Ciné Franco. Merci mille fois. Et on se retrouve peut-être au Cinéma Paradiso à Paris, hein, quand les choses...
J'aimerais bien.
Bonne chance et que la force soit avec vous et vos proches, cher Marcel.
Merci infiniment, Eric.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Un nouveau cambriolage a été commis ce matin et la police n'a aucun indice.
Ces infos sont de plus en plus pénibles à regarder.
Enfin, j'ai une enquête à mener, moi. C'est le jour du bouillon de poule de Monsieur Hansen.
Pourquoi ce fermier ne peut pas décider lui-même qui doit aller dans la marmite?
Qui est pour Eugène?
T'as intérêt à bien faire ton boulot de chien de garde, compris?
Coucou, je suis là. Est-ce que par hasard on pourrait covoiturer? Je vous mettrai 4 étoiles pour la conversation.
Ma petite Marnie est perdue. Elle ne connaît rien à la vie.
Je suis l'agent spécial Marnie de Charme. Et j'enquête sur les cambriolages qui ont été commis dans la région.
Oh, les chats. Ils se croient toujours les meilleurs.
Si on travaille en équipe, on peut découvrir qui est cette bande de voleurs.
Il semblerait que votre minette appartienne à une bande de voleurs en cavale.
La vitesse est limitée à 30.
Les panneaux de limitation, je vais te montrer à quoi ça sert.
Dans le mille, Elvis, quand on voyage avec un fou comme toi, on se sent vraiment en sécurité.
CIUT 89.5, Toronto.
Attention, prêt, dégusté. FCI et vos restaurants Élysée vous invitent à découvrir la délicieuse cuisine de Prisca Morgeon. Tous les mercredis et vendredis à 11h, rendez-vous sur les Facebook de RCI Martinique et de Snack Élysée et retrouvez les vidéos Tété Douette. Des recettes savoureuses, équilibrées, faciles à réaliser chez vous. Alors faites-vous plaisir. Encore plus de bonus gourmands vous attendent sur le Facebook Snack Élysée.
Vous vivez une crise, vous avez besoin d'aide, mais vous ne savez pas où vous adresser? Notre partenaire Yann, la thérapeute du cabinet Noir et Psy à Toronto, est là pour vous aider. Psychologue de formation spécialisée en approche interculturelle, Yann, la thérapeute, a une approche qui prend en compte l'aspect de la diversité culturelle, la langue et la compréhension des difficultés médicales de ses patients. Alors qu'on constate que la diversité culturelle et la langue française posent de vrais défis pour des cliniciens en santé mentale, la spécialiste et psychologue Yann la Thérapeute a déjà fait ses preuves. Yann la Thérapeute possède une expertise dans le traitement des problèmes complexes de santé mentale s'ajoutant aux difficultés d'adaptation. N'attendez plus, découvrez la clé du bien-être en toute discrétion. Abonnez-vous à ses blogs, à sa page Facebook. Noir et Psy avec Yann la Thérapeute dans CUT 89,5 FM Popourri Show. Noir et Psy, la santé mentale sans tabou. Par téléphone, le 437-775-8767 ou visitez le site web www.noirepsy.org. Soyez intelligent. Contactez Noir et Psy, Yann la Thérapeute. Aidez-vous maintenant. Noir et Psy, en partenariat avec Popourri Show et CUT 89,5 FM, la radio comme je l'aime.
Pour ne plus avoir notre langue dans nos poches, je veux chanter. Je veux chanter. Que tu viennes de Pointe-aux-Roches ou d'Orléans, je veux chanter. Je veux chanter.
Et oui, la belle chanson, Notre Place, c'est presque l'hymne national des Franco-Ontariens, n'est-ce pas? Du 10 au 18 avril 21, le Festival Ciné Franco Jeunesse et Famille est votre destination pendant les vacances scolaires. Et cette année, Ciné Franco nous fait le bonheur en nous présentant Regard Franco-Ontarien, quatre courts-métrages de talentueux cinéastes ontariens. Sur le bord, premier court-métrage de Jean-Marc Larivière, court-métrage de 5 minutes réalisé en 1993 avec Robert Dixon. Mise en image du poème Sur le bord du lac Ramsey de Robert Dixon, récipiendaire du prix du gouverneur général Poésie en 2002. Toujours du même réalisateur, Des poussières de toi, un court-métrage de 4 minutes de Jean-Marc Larivière réalisé en 2012. 13 secondes pour rescaper un petit disparu de l'oubli, mais aussi un récit sur les périls de la mémoire. Puis un autre court-métrage que je vous recommande personnellement, puis nous autres dans tout ça. De Andréane Germain, une franco-ontarienne réalisatrice de Sudbury, réalisée en 2007, un film qui a refait surface après les événements sur la crise linguistique en Ontario en 2018. Une analyse sur l'éternelle question des Québécois sur les franco-ontariens. D'où viens-tu? Est-ce qu'il y a vraiment des francophones en Ontario? Eh oui, on connaît la question. Et enfin, Mémoire d'un magasin général de Jocelyn Forgue, réalisé en 2010 avec Sarah Forgue, Guy Thibodeau, Jérôme Borgo. L'histoire de Julie, 12 ans, qui rêve de quitter son petit patelin de l'Est ontarien pour devenir une grande cinéaste. Elle fait la connaissance de Monsieur Claude Provost, propriétaire d'un magasin général et vétéran de la Deuxième Guerre mondiale et récemment décoré par l'ordre de la Légion d'honneur française. Voilà une bonne façon, à mon avis, d'apprécier les cinéastes de chez nous, en Ontario français. Du 10 au 18 avril 2021, le Festival Ciné Franco Jeunesse et Famille est votre destination pendant les vacances scolaires sur www.cinefranco.com. Bande annonce, Mémoire d'un magasin général de Jocelyn Forgue, Manetto, DJ, Devera.
Dans notre famille, non, mais il y a mon ami Claude Provost.
C'est qui?
Monsieur Provost, du magasin général. Je connais pas toute sa vie, là, mais je sais que c'est un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale. Il pourrait sûrement t'en parler.
Bien, merci. Merci beaucoup, hein. Bonjour, Chérie.
Allô.
Es-tu ici pour des bonbons, du chocolat?
Non.
Non?
Grand-père m'a dit que vous êtes un vétéran.
Oui.
Je pourrais vous poser des questions?
Oui, peut-être plus tard, j'ai des clients à servir dans le moment.
OK. Bonjour.
Tous de bonnes questions sur le vaccin. Pourquoi faut-il se faire vacciner si on peut vaincre naturellement la COVID-19?
Les personnes vaccinées contre la COVID-19 sont protégées de cette maladie. Elles risquent donc moins d'avoir des symptômes ou de souffrir d'une maladie grave. L'ensemble de la population est susceptible d'attraper la COVID-19 et l'unique moyen de se protéger de cette maladie, c'est la vaccination. C'est la solution retenue aussi par toutes les provinces canadiennes et tous les pays à travers le monde.
Le vaccin, un moyen sûr de nous protéger.
Françaises et Français de l'étranger, les 29 et 30 mai prochains, vous allez avoir un rôle important à jouer. Celui d'élire vos conseillères et vos conseillers des Français de l'étranger, vos élus de proximité. Et oui, c'est important car aller voter, c'est conserver le lien qui vous unit avec la France. Oui, la France, vous savez, la gastronomie, l'inégalable culture du débat, mais aussi le savoir-faire et la modernité. Alors pensez à vous inscrire sur les listes électorales consulaires ou à actualiser vos coordonnées sur le site service-public.fr avant le 23 avril. C'est simple et rapide et cela vous permettra de voter lors des prochaines élections consulaires et d'élire les conseillères et les conseillers des Français de l'étranger. Ce n'est pas parce que l'on n'habite pas en France que l'on n'est pas représenté. Pensez à vous inscrire sur les listes électorales consulaires avant le 23 avril.
Élections consulaires 2021. Les élections consulaires auront lieu le 29 mai pour les Français résidant en Ontario, au Manitoba. 4 conseillers des Français de l'étranger seront élus. Quelles sont les modalités de vote et qui sont les candidats en liste? En cette période très compliquée, CUTFM ouvre son antenne aux candidats, candidates. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Yann Leborn. Il est conseiller en affaires publiques à Ottawa. Candidat tête de liste En Marche pour les Français de l'Ontario et du Manitoba. Vous trouverez tous les liens de Yann Leborn sur notre site popourichaud.com.
Bonjour, je m'appelle Yann Leborn et je voulais vous parler d'une élection qui concerne tous les Français établis hors de France. Les élections consulaires qui auront lieu en mai 2021. Ces élections sont un moment démocratique important pour les Français de l'étranger car il nous permet de choisir nos élus locaux, les conseillères et conseillers des Français de l'étranger. Participer à cette élection, c'est faire vivre sa citoyenneté malgré les milliers de kilomètres qui nous séparent de la France, c'est voter pour des représentants qui pourront défendre vos intérêts, vous représenter auprès des autorités françaises. Ces élections, j'y suis candidat. Avec les autres Françaises et Français présents sur ma liste, nous portons les couleurs du parti politique fondé par le président Emmanuel Macron, La République En Marche, et de la majorité présidentielle. Ensemble, on est impliqués dans la communauté française en Ontario, on connaît les préoccupations des Français et on partage une même volonté de régler les problèmes du quotidien. Cette candidature, elle vient donc concrétiser et prolonger notre engagement citoyen. Pour voter aux élections consulaires, 2 options. Soit vous votez par internet du 21 au 26 mai 2021, soit le 29 mai avec 2 bureaux de vote au consulat de France à Toronto ou à l'ambassade de France à Ottawa. Alors intéressez-vous à cette élection, mobilisez-vous et votons au mois de mai, on compte sur vous.
Avec l'appli Les Indes Radios, la musique bouge avec vous. Où que vous soyez, où que vous alliez, écoutez nos radios et web radios en direct. Un titre vous plaît? Ne le laissez pas filer. Réécoutez-le instantanément ou ajoutez-le à votre playlist pour le retrouver plus tard. Déjà 2 millions de téléchargements. L'appli Les Indes Radios, la bonne des radios.
Si je suis venu pour l'amour là, rappelez les poches de la maman. Quelle rigole que je chante nous là, sur le bord de la plage ou pas. Si je suis venu pour l'amour là, rappelez les poches de la maman. Quelle rigole que je chante nous là, sur le bord de la plage ou pas. On est dans le move like that. On est down for the ride.
Et oui, c'était un extrait d'un de nos artistes favoris, David Campana, rappeur de la région de Montréal, qui nous donne rendez-vous dimanche prochain. Pandémie ou pas, les artistes rap québécois continuent de sortir du matériel de qualité. Rien ne semble pouvoir les arrêter. David Campana, un artiste à surveiller qui sera des nôtres dimanche prochain. Et maintenant, place hommage à Patrick Juvet. Et oui, Patrick Juvet nous a quitté le 1er avril 2021. Chose peu connue du grand public, Daniel Bellavoine a débuté sa carrière comme choriste pour Juvet. Et savez-vous combien d'albums a vendu Patrick Juvet? Eh bien, depuis les années 70, il peut se vanter d'en avoir écoulé pas loin, tenez-vous bien, 25 millions d'albums. Incroyable! Et qui n'a pas au moins une fois dans sa vie entendu Où sont les femmes ou I love America? Sa vie professionnelle ressemblait à des montagnes russes, nous dit-on. Il a connu des hauts et des bas, des périodes fastes, d'autres moins. Il a vécu pendant un bon bout de temps aux États-Unis. Patrick Juvet a eu une très belle histoire avec la célèbre actrice américaine. Non, 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 vous ne rêvez pas. C'est bien Melanie Griffith. Hommage à Patrick Juvet sur CUT 89,5 FM, suivi de Patrick Sébastien, l'ex-animateur du Grand Cabaret du Monde sur France 2 et TV5 Monde.
C'est la chanson qui fera de Patrick Juvet une star internationale, I Love America. Le tube passe dans toutes les discothèques du monde, c'était il y a plus de 40 ans, mais les jeunes de l'époque n'ont pas oublié.
Dans les hommages qui lui ont été rendus hier sur les réseaux sociaux, que ce soit par des professionnels, la presse ou par le public, beaucoup d'hommages en anglais, en espagnol, en portugais, en allemand. Il était vraiment une star internationale.
C'est au début des années 70 qu'Eddie Barclay découvre ce jeune Suisse au physique d'ange qui compose des mélodies originales. Le succès est immédiat, les tubes s'enchaînent au cri des midinettes. En 1973, il représente la Suisse à l'Eurovision, mais c'est sa rencontre avec Jean-Michel Jarre qui va changer sa vie. En 1977, il sort les bleus au cœur.
Tu promènes sur la ville tes yeux couleur de solitude. Et souvent je te vis sur tes lèvres un goût d'inquiétude.
Patrick Juvet a eu une formation de pianiste classique et c'est dès l'âge de 12 ans qu'il a décidé qu'il serait musicien.
La question ne se posait pas. Je ne savais pas comment j'allais le faire, mais je ne me posais aucune question.
Des statues de marbre font l'amour intégral. Sous les arbres, je marche nu, je pars du scandale.
Patrick Juvet est un caméléon qui aligne des projets ambitieux. Après sa période disco, il signe des albums plus personnels. Il se fera progressivement oublier à partir des années 80. Et pour beaucoup, il restera le chanteur d'Où sont les femmes ou d'autres tubes disco. Mais l'émotion créée hier soir par l'annonce de sa mort est aussi due à cette nostalgie des années 70 qu'il a si magnifiquement incarnée.
Coucou les amis. Et encore une fois, hélas, un coucou triste ce soir. Parce qu'on a encore perdu un pote, on a encore perdu un ami, Patrick Juvet. Patrick Juvet, c'était un garçon, c'était du soleil, c'était un garçon généreux, c'était un garçon gentil, c'était un garçon complètement fou, sympa, c'était un pote, évidemment. Voilà, il est parti rejoindre tous les autres, nos copains Carlos et Jérôme, Claude, Assin, tout ça. Alors je voulais, bien sûr que je suis triste, évidemment, mais je voulais garder la vie de ce qu'on a vécu avec ce genre de personnage. Je vais repasser un moment où il était venu dans les années bonheur, c'était du bonheur. J'ai gardé plein de choses, j'ai gardé le plateau d'avant parce que c'était à son image, c'était un plateau gay où Fabien Lecoeuvre vous avait raconté une anecdote sur lui. J'ai gardé la chanson, Où sont les femmes, évidemment. Et puis le plateau d'après aussi, où j'avais repassé une performance qu'il avait faite, où il s'était déguisé en Robert Charlebois, c'était hallucinant de ressemblance. Et puis tout ce qu'on disait sur la vie après, voilà. C'est ma manière de lui dire qu'il est toujours là, voilà. J'embrasse très fort sa famille, je pense à lui ce soir, et puis tous ceux qui l'ont beaucoup aimé, vont être contents, je pense, de le revoir au meilleur de sa forme, en plein soleil, comme je l'aimais bien. Voilà, je vous embrasse très fort.
Eh ben, qui on reçoit maintenant, les enfants? Quelqu'un que tu connais très bien, Karen Isabelle. Isabelle Karen.
Qui donc?
Tu sais, le blondinet, là, qui chantait I Love America, tu vois pas?
Je vois très très bien.
C'est lui qu'on reçoit maintenant.
Oui, qui s'est installé à Hollywood.
T'as travaillé avec lui?
Eh oui.
Bien sûr, on a sillonné l'Europe ensemble.
Oui.
Alors de manière tout à fait platonique, parce que notre ami Fabien a quand même une anecdote assez savoureuse à te révéler.
Oui, parce que
soir,
à partir de 77, notre ami s'est installé à Hollywood.
On parle de Patrick Juvet, évidemment.
Absolument.
Rien à voir avec Louis Juvet.
Non, totalement rien à voir. Mais surtout, il a eu une seule et grande et belle histoire d'amour.
Avec qui?
Grande actrice américaine, Melanie Griffith.
Tiens donc.
Eh oui.
Qui rêve de l'épouser.
Absolument.
Qu'est-ce que vous avez
fait? Lui était amoureux de sa mère, tu sais, Tippi Hedren.
De la mère de qui? De sa mère à lui?
La mère de Melanie Griffith, qui qui était la muse d'Hitchcock.
Ah, la mère de Mélanie Griffith, c'était celle qui jouait dans Les Oiseaux.
Oui. Voilà.
Ah, d'accord. Tu sais, cette dame qui est dans Les Oiseaux,
oui,
c'était la maman de Mélanie Griffith.
Mélanie Griffith
est tombée amoureuse de Patrick Juvet.
La supplié de l'épouser.
On parle toujours
dans les feux de l'amour.
C'est une vraie histoire. On parle toujours de son penchant pour les garçons. On ne parle jamais de sa belle histoire d'amour.
J'avais pas parlé, moi, de son penchant pour les garçons.
J'ai rien compris.
C'est pour ça
qu'ils
se demandent ce soir où sont les femmes.
Enfin,
c'est fini, oui.
Donc sa mère, sa mère élevait des oiseaux, c'est ça.
Je ne comprends rien.
En tout cas, il est là. Regardez, là-bas, il est blond et comme ça. Et ici, où sont les femmes? Où elles sont?
Elles étaient là. Elles sont pas là.
Et il est là. Il est là-bas. Regardez.
Patrick Chuvet. Où sont les femmes, dit-il, alors qu'il en est entouré? Les merveilleuses sirènes des ballets de Jack Doll. Je parle des filles, hein. Tu es venu d'Espagne pour nous, ça nous fait très très plaisir.
Tu habites en Espagne. Pour tout ce beau public.
Pour tout ce beau public, voilà.
Merci beaucoup. Cette chanson, elle a quand même 30 ans, hein, bon.
Oh là là, c'est vrai. Mais arrête de nous retourner le couteau dans la plaie. Tu fais la tournée à chambre.
J'ai commencé à chanter à 10 ans, un truc comme ça.
Tu fais la tournée à chambre.
Oui,
justement.
La grande tournée à chambre.
Avec tous les copains.
La tournée des idoles avec tous les copains. C'est vraiment
ça fait plaisir de s'entendre ensemble.
Ouais, ça va être
on n'arrête pas de leur faire de la pub, je vous rassure, je touche rien dessus, hein. C'est vraiment parce que ça nous fait plaisir.
Moi non plus.
Et parce que c'est moi non plus. Ça, c'est très drôle. Hey, Patrick, j'ai un petit cadeau pour toi. J'ai un petit truc que tu avais fait pour nous. Vous pouvez pas... Regardez la tête de Patrick Juvet. Il ressemble pas à Robert Charlebois, quand même.
C'est pas
non, pas vraiment,
Regarde ce qu'on avait fait à l'époque. Regarde bien. Ça ne dure pas longtemps. Eh bien, ça, c'est Patrick Juvet. Ah, c'est vieux, mais ça a 20 ans.
C'est rien de gore, ben ordinaire. La nuit, ils ont plus le goût de rien faire.
C'est pas mal, hein?
Fumerai des clopes, boirai de la bière, sans rien faire d'extraordinaire.
Le pauvre travail de maquillage de Brigitte Delouis et d'Alain Barnasson pour le coiffure.
Ils ont une vie ben ordinaire.
Un petit souvenir comme ça que je voulais te repasser.
Ah ouais, merci. Mais bravo, maquilleuse.
Tout à l'heure, on fera un petit cadeau à Sylvie Vartan aussi.
Ah oui.
Un truc qu'elle avait fait. Tu vas bien, mon plastique? Mon plastique.
Mais
mon Patrick.
Grave,
bah ouais, non, vous êtes tous les deux.
On m'appelle souvent bio, plastique, plastique Juvet.
Quel plus beau souvenir de ces années disco? Ouais. Ton plus beau souvenir de ces années disco, c'est quoi? C'était de monter sur scène. C'était la vie de fou que vous aviez la nuit.
Ouais, c'était la vie de dingue, je crois, surtout.
Vous avez brûlé,
lui lançait plus que moi.
La chandelle par les deux bouts. Tu as profité de tout jusqu'aux excès.
Ouais.
Comme
ouais,
tout le monde.
Ouais.
Tu regrettes?
Non, pas du tout.
À refaire, tu fais pareil?
Ouais. Non, mais en plus, j'ai la chance d'être vivant, parce que malheureusement, j'ai perdu beaucoup de gens dans cette époque-là, qui était très dangereuse. On ne savait pas qu'il fallait se protéger.
Tu fais attention maintenant.
Ouais, j'étais trop romantique.
Tu fais attention maintenant.
Je me suis bien protégé.
Patrick, tu fais attention maintenant.
Ah ben, j'ai toujours fait attention.
Dis-leur qu'il faut se protéger.
Il faut faire attention. Il faut sortir couvert, comme on dit.
Voilà. C'est important.
C'est très important, mais je crois que tout le monde le sait maintenant.
Et oui, madame, monsieur, j'espère que cette émission vous a plu. L'émission est déjà disponible sur popourishow.com. Un très grand merci à l'ingénieur du son DJ Devera pour le montage et le mixage. Marceline, fondatrice de Ciné Franco, ne sortez pas, restez chez vous et branchez-vous sur le site de cinéfranco.com jusqu'au 18 avril. Charles Bender, merci pour votre générosité. Le Canada, le monde a besoin des gens comme vous. Et je vous invite, madame, monsieur, à découvrir cette œuvre magistrale, Half Breed de, ou Métis, si vous préférez, en français, de Maria Campbell. Merci à Yann Le Born, conseiller en affaires publiques à Ottawa, candidat tête de liste en marche pour les Français de l'Ontario et du Manitoba. Merci à prisedeparole.ca pour ces belles découvertes. Merci à notre nouveau sponsor communautaire, la Fondation Sylvanie Lindor, qui fête ses 10 ans d'existence. Vous y trouverez tous les liens de cette fondation sur notre site popourishow.com. Prenez soin de vous. Toute question liée à la santé mentale, si vous êtes dépressif, veuillez contacter notre partenaire Noir et Psy. Tous les liens sont sur notre site. Bon dimanche, patience, courage. Je vous souhaite une excellente semaine. Que la force soit avec vous. Ciao, ciao, ciao. Et maintenant, je vous laisse place à Matt DJ, le seigneur des mix et DJ coupé, décalé. Allez, bonne semaine et bon dimanche.
DJ Matt. Alors les freestyle.
Alors les filles, alors les filles.
Alors les wet, la wet, la wet. Freestyle. Yeah. 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 Mama. Mama. Mama.
Boy, man.
Freestyle. Mama, just a breath. Freestyle.
I don't know be dirty. Mama no dirty, the dirty, the wet up. Dirty de, dirty de, dirty de. I don't know be the dirty. Mama no wet up the dirty. I don't know be the dirty.
Swear me. Everybody quiet ya. Aïe aïe aïe, tu es sa bleu.